André Glades, pseudonyme de Nancy Marie Vuille. Résistance. Partie 2, chapitre 3. André Sorin à Jean Sylvestre. Mon cher maître et ami, je vous remercie de la franchise et de la loyauté de vos explications. Mais il est arrivé ce que vous avez prévu, sans doute. Elles ont tué en moi toute espèce de sentiment. Un mot imprudent de votre ami m'avait ouvert un jour sur le mystère de son passé. Et Dieu sait toutes les suppositions que j'ai faites avant de m'adresser à vous. Aucune n'était pire que la réalité. Pour lui trouver quelque excuse, il faut votre indulgente bonté. Il faut aussi votre désintéressement. Or, moi, je ne suis ni bon ni désintéressé. Je l'aimais. Je l'aimais comme peut aimer l'homme que je suis et que vous connaissez, dont elle était vraiment le premier amour. Et maintenant, je pense aux choses sacrées dont elle n'a pas tenu compte, au foyer qu'elle a quitté, aux parents qui l'ont pleuré, à la tache qu'elle a imprimée sur sa vie, et dont rien, rien au monde ne pourra jamais la laver. Vous cherchez à l'excuser en me racontant ses souffrances. Mais, mon cher maître, croyez-vous qu'il suffise de se jeter à l'eau pour se purifier d'une souillure, ou de faire sa médecine pour l'effacer? Son passé la sépara jamais de l'amour honnête, le seul vrai, celui qui fait l'honneur des femmes et l'orgueil des mères qui n'ont point de secret à cacher. Vous essayez de me montrer en elle une victime. Moi, je ne vois qu'une coupable. Vous me parlez de pitié. Vous pouvez en avoir, vous, qui n'aimez pas. Mais moi, c'est autre chose. Tout ce que vous pouvez dire en sa faveur, au lieu de m'incliner à l'indulgence, exalte mon mépris. On n'a pas le droit de marcher dans la boue quand on a la figure d'un ange. Ses qualités d'âme, sa tendresse pour son enfant, l'énergie qu'elle a déployée, rien, rien de tout cela ne compte à mes yeux. Pour ce qu'elle aurait pu être, pour ce qu'elle s'est interdit de devenir, pour le bonheur qu'elle aurait pu donner et pour les illusions que je m'étais faites sur elle, pour les vaines espérances que j'ai eues et pour les heures abominables que je viens de vivre, je la hais. Et rien de ce qu'on pourra dire et rien de ce qu'elle pourra faire ne m'empêchera de la haïr, parce que rien ne peut empêcher que ce qui a été n'ait été. Pardonnez-moi, mon bon ami, de vous parler ainsi, à vous, qui avez eu pour elle une indulgence de père. Mais je ne puis ni peser ni choisir mes mots, et il n'y a que vous au monde à qui j'ose crier ma douleur. Oui, plus j'y pense, plus je trouve de faits à sa charge. Il est des fautes qu'on ne peut racheter que dans la retraite, l'humilité et le silence. La vie qu'elle a choisie m'offusque, parce qu'elle n'a pas l'effacement qui conviendrait. Au lieu d'être à jamais confuse de sa faute, cette femme est fière de ce qu'elle a fait pour la racheter. Et cet orgueil me froisse presque autant que le reste. Comment être miséricordieux envers qui ne croit pas même avoir besoin de miséricorde? C'est pour cela que je ne suivrai pas vos conseils. Je n'ai pas besoin de réfléchir, ni d'attendre, ni de rentrer en moi-même, ni de chercher à être juste. Mon Dieu, non. Et ma ligne me paraît beaucoup plus simple. Je dois m'éloigner, voilà tout. Comme un homme qui courait au-devant d'un péril et qu'une voix charitable avertit. Vous me parlez d'obstacles à vaincre en moi-même et en dehors de moi. Vraiment, cela est-il sérieux? Ces obstacles, les avez-vous mesurés? Soupçonnez-vous l'épaisseur des murailles qu'il me faudrait renverser pour arriver jusqu'à elle? Songez qu'il s'agit pour moi des assises de ma vie morale. Si mon esprit se laissait émouvoir par le vôtre, il me faudrait renier, au profit de doctrines dont vous savez que l'ampleur me fait horreur, le catéchisme d'honneur, de vertu, de devoir dans lequel j'ai été élevé. Préjugé, direz-vous? Peut-être, mais je tiens à ces préjugés-là. Ma jeunesse a été pieuse. De ma foi passée, je conserve le respect des principes qui assurent la solidité du devoir et la dignité de la vie. D'ailleurs, fussé-je enclin, ce qui n'est pas le cas, à les sacrifier, je serais arrêté dans cette voie par les égards que je dois à ma sœur, à l'amie incomparable qui m'a servi de mère. Elle a déjà souffert par moi quand ma conscience m'a obligé à abandonner ma première carrière. Je ne veux pas qu'elle souffre encore. Nous appartenons l'un et l'autre à un passé qui s'éloigne, mais que nos souvenirs entretiennent fidèlement et qui a planté dans nos deux êtres de solides racines. Si vous saviez quelle ascendance de scrupuleuse honnêteté l'on se transmet d'une génération à l'autre dans notre famille. Me voyez-vous amener à ma sœur dans notre vieille maison cette jeune femme tenant son enfant sans nom par la main? Ce sont là des obstacles contre lesquels on ne peut rien parce qu'on les a au-dedans de soi, parce qu'ils sont le sang et l'honneur dont on vit. Et puis je l'ai aimée, et peut-être l'aimais-je encore. Et c'est là ce que je ne lui pardonne pas, et j'en souffre trop pour le lui pardonner. Voilà la plaie qu'elle a ouverte, qui saigne longtemps, mais que je n'aurai pas la faiblesse d'entretenir par des illusions désormais impossibles, par des sophismes dont je veux me garder. Jean Sylvestre à Christine Niel. Il faut que je vous informe, ma chère enfant, d'une lettre que j'ai reçue à votre propos et à laquelle j'ai répondu, usant de la liberté que vous m'avez donnée de raconter de votre passé ce que j'en jugerais opportun. Peut-être avez-vous deviné qu'il s'agit de M. Saurin. J'ai d'abord hésité à me rendre à son désir, puis le ton de sa lettre, si digne et si franc, qui ne laissait aucun doute sur la loyauté de ses intentions, la grande estime où je le tiens, et mon affection pour vous, m'ont engagé à lui dire simplement ce qu'il semblait si anxieux de savoir. Ce qu'il n'aurait pas su par moi, ma pauvre enfant, il l'aurait appris ailleurs, ou il l'aurait appris de vous-même quand l'heure en serait venue. Sans le hasard qui lui a fait pressentir l'irrégularité de votre situation, vous auriez été amené à lui en faire l'aveu, car il vous aime et il allait vous le dire. Peut-être la marche qu'il a suivie et ma franchise vous ont-elles épargné une douleur bien vive. Je ne veux rien vous cacher. J'ai reçu de lui une seconde lettre et je puis mesurer l'intensité de son amour à l'âpreté de sa rancune. Quoi que vous pensiez de votre passé qui crée un abîme entre vous et les autres, je vous assure qu'il n'y a point d'abîme que l'amour ne puisse combler. Et je vous ai dit que Saurin vous aime. Il vous aime de toute la force de son âme comprimée et lente. Il vous aime en homme qui n'a point encore aimé. Il vous reviendra, j'en suis sûre, parce que vous êtes digne de lui. Seulement, il faut qu'il le comprenne. Il n'y parviendra que lentement, à travers beaucoup de souffrances, beaucoup de sacrifices. Et parce qu'il aura souffert pour vous, vous lui pardonnerez ses doutes. Prenez garde, surtout, de ne pas gâter aujourd'hui votre vie par orgueil, comme autrefois par ignorance. J'aurai un peu de peine, moi aussi, à vous le pardonner. Je vous écris avec beaucoup de calme, car, bien qu'à l'heure actuelle tout semble perdu, j'ai la conviction que tout est prêt de s'arranger. Et je ne peux m'empêcher de vous dire que j'ai éprouvé déjà comme une légère déception. Nous n'avions pas admis l'hypothèse d'un nouvel amour, pour vous, dans nos causeries. Votre enfant, votre travail devaient vous suffire, et je vous aurais préféré libre et fière, marchant seule dans la voie choisie. Maintenant, vous redeviendrez une femme comme les autres, broyée au commun engrenage. Mais si vous êtes avant tout une nature de douleur et d'amour, pourquoi vous détournerais-je de votre destinée? Le cœur est là qui réclame ses droits. On ne les lui conteste pas. J'ignore quel sera le sort de la femme dans les sociétés futures, mais aujourd'hui, combien elle a encore besoin de quelqu'un qui la protège? J'ai souvent pensé avec tristesse que la vie se compliquera davantage pour vous dès que je ne serai plus là pour vous aider un peu. Et il n'est personne dont je me réjouisse de vous savoir aimer autant que d'André Sorin. Je vous écris de mon jardin où les mimosas me font fête. Le ciel est bleu au-dessus de moi, l'air doux et pur, tout chargé du parfum des fleurs. J'écoute la musique des vagues sur la grève. Si vous saviez la paix que j'ai dans l'âme, et combien je voudrais vous la faire partager, à vous, que les orages ont encore le pouvoir de meurtrir. Oui, je plains presque votre jeunesse, car il faut être aussi près du port que moi pour avoir droit à cette sérénité. Christine Niel à Jean Sylvestre. Non, mon cher ami, je ne puis pas en vouloir à votre amitié, mais je regrette que vous n'ayez pas refusé toute explication. Comprenez-vous ce que j'éprouve à la pensée que cet homme s'arroge le droit de me juger? Vous a-t-il raconté son étrange conduite? Il est venu chez moi. Je l'ai reçu en ami. Il s'est comporté en juge d'instruction. Il m'a fait subir un interrogatoire en règle. Je l'aurais si peu cru capable d'une telle indélicatesse que, d'abord, je ne me suis aperçue de rien. Je lui ai répondu sans méfiance. Mal m'en a pris. À quoi voulez-vous donc qu'il s'accoutume? À l'idée de m'épouser, peut-être? Mais qui vous dit que je consentirai jamais? J'ai trop souffert de l'étroitesse des pharisiens pour jamais retomber sous leur coup. Il a une sœur qui rougirait sans doute de me tendre la main. Croyez-vous que je veuille de leur pardon ou de leur pitié? C'est vrai, il y a un abîme entre lui et moi, mais nous ne le franchirons ni l'un ni l'autre. L'amour, dût-il, en bon pasteur, s'abaisser jusqu'à moi et m'accabler de sa magnanimité, je me raidirais de toute ma force. Je ne veux pas l'aimer, je ne veux pas d'amour. Qui dit amour, dit humiliation, dit douleur, dit calvaire. Une fois déjà, l'amour a causé ma ruine. S'il rentrait dans ma vie, ce serait pour y ramener le malheur. Je l'ai refaite et j'ai trouvé la paix. Je suis si heureuse, si tranquille avec mon enfant. Je ne demande rien de plus que ce que j'ai. Pourquoi voulez-vous que je l'aime ? Je suis sûre qu'il m'entraînerait dans une nouvelle phase de souffrance. Rien que d'avoir pensé à ces choses, il me semble que tout chancelle. Depuis son odieuse visite, je m'irrite, je m'affole, j'ai peur. Je marche dans de l'angoisse et des ténèbres. Le passé rôde autour de moi comme une bête de proie. J'avais si bien réussi à l'endormir. Et puis, tout m'inquiète. Ainsi, ce soir, François a mal à la tête. Je sais en général ce que sont ces bobos des enfants. Mais quand c'est le mien, je prends peur comme s'il s'agissait d'une grave maladie. Il m'appelle, il se plaint, je vais à lui. C'est pourquoi je suis si brève. Comment voulez-vous que je m'attarde à penser à M. Sorin, à ses sentiments, à ses rancunes, à ses principes, quand mon enfant souffre à côté de moi? Chapitre 4. Une ère de souffrance commençait, en effet, pour Christine. Son fils eut la fièvre typhoïde. Il fut longtemps et dangereusement malade. Dès la première heure, elle ne quitta plus son chevet. Elle avait abandonné sa consultation, ses malades, la clinique, sans songer qu'elle risquait de perdre le fruit de tant d'héroïques efforts et de patients labeurs. Le souci de la chère existence à défendre lui ôtait toute autre pensée. Et devant la douleur, elle fut aussi faible que déraisonnable, aussi violemment ballottée de la crainte à l'espoir qu'une autre femme. Jean Sylvestre lui avait envoyé le docteur Saurin. Pas plus qu'il ne chercha à se soustraire à ce qu'il lui plaisait d'appeler une impérieuse obligation envers leur maître, elle ne fut tentée de repousser son concours. Car tout ce qui n'était pas l'enfant était loin d'elle. Et, devenue passive, craintive et suppliante, elle l'écouta comme le sauveur. Il y eut de mauvaises journées, des heures de délire et de fièvre, où l'enfant, de sa force décuplée, s'arrachait aux mains de femmes qui tâchaient de le retenir. Puis, des heures de prostration complète, où il reposait si pâle dans la blancheur des oreillers que la mère tremblait de retrouver sous ses doigts un pouls insensible. Elle, si affirmative d'habitude, qui s'imposait par la sûreté de ses diagnostics et la rapidité un peu jeune de ses décisions, hésitait maintenant sans cesse, comme un étudiant devant un cas trop grave. Saurin, à qui elle demandait les indications les plus minutieuses, ne put s'empêcher un jour de lui en exprimer son étonnement. « Mais vous êtes médecin, vous savez cela aussi bien que moi. » Elle répondit, « Je ne sais plus rien, j'ai peur, voilà tout. » Apitoyée, il eut des paroles d'encouragement dont elle lui fut reconnaissante. Pourtant, il ne le remerciait pas et ne s'offensait pas non plus de ses rigueurs, quand, repris par ses mauvaises pensées, il affectait l'indifférence ou une consciente dureté. Et jamais, elle, que l'égoïsme despotique des malades avait parfois indisposée, elle ne se dit qu'elle abusait de sa complaisance en le dérangeant constamment, sans souci de l'heure. Il était à ses yeux le médecin dont on peut tout exiger parce qu'on espère en lui, et dans sa faiblesse, oubliant ses griefs, elle le traitait en ami. C'est ainsi qu'une nuit où les symptômes s'aggravaient, elle le fit appeler d'urgence. Un autre malade l'avait réclamé, il n'arriva qu'au matin. La veilleuse achevait de mourir. Christine s'élança au-devant de lui. « Oh, pourquoi avez-vous tant tardé? Venez, venez, cela va si mal à présent. » Sans répondre, il la contemplait, épouvanté de ce que quelques heures d'angoisse avaient fait de cet être jeune et séduisant. Le jour brumeux et terne du matin d'hiver enveloppait Christine de sa mauvaise lumière. Dans son peignoir de laine brune, taillé comme un froc de moine, avec ses lourds cheveux tirés en arrière, la fatigue de ses traits, ses yeux rougis, son teint frippé de cette pâleur grise des blondes et les rides soudaines dévoilées sur son front, elle parut à Saurin étonnamment changée, vieillie comme si beaucoup d'années eussent passé sur sa tête. À travers sa peine, elle dut avoir vaguement conscience de cette impression, car, en se penchant sur le lit, elle esquissa un haussement d'épaule rapide et navré, qui semblait dire « Oh moi, qu'importe !» et qu'il l'aima mieux ainsi, brisé dans son courage, humilié dans son corps, trahissant son accablement, que lorsqu'elle se présentait à lui, armée de cet orgueil serein qui le déconcertait. Pour la première fois, il laissa parler sa tendresse dans ses yeux. Il fut bon et humain. Il la traita non plus en confrère qu'on assiste, mais en femme qu'il faut réconforter, en mère qu'on voudrait secourir, de sorte que, lorsqu'il partit, elle lui tendit la main. Ce geste confiant le bouleversa. Tout le reste du jour, il laissa travailler sa pensée et glissa sur la pente où son cœur l'inclinait. Jamais il ne s'était senti à ce point attiré vers Christine qu'en la voyant dépouillée de sa séduction de femme, dans toute sa misère d'être faible, vaincue par un sentiment douloureux et triomphant. Jamais il n'avait si bien compris que c'était elle qu'il aimait en elle, son âme tendre, éprouvée et souffrante. Son passé s'éclairait aussi d'une lumière nouvelle. Il lui trouva des excuses qu'il n'avait point encore invoquées. Combien d'autres, à sa place, eussent éloigné la preuve vivante de leur faute, car si elle eût seulement consenti à cacher cet enfant, ce cher petit compagnon de misère et de joie, qui donc aurait su son secret? Lui-même n'aurait-il pas préféré? Mais elle avait eu le courage d'accepter toutes ses responsabilités sans souci d'alourdir sa marche pour la lutte. La lutte, pauvre femme, qu'elle devait être dure, inégale, décevante. Que de vaillance il y avait déployée pour un triomphe qui pouvait être passager. Il connaissait assez le monde pour comprendre que sa position, solide en apparence, demeurait instable et menacée. Une femme ne peut rien par elle-même, ou presque rien. Or, quels étaient les appuis de celle-ci? Un enfant qui, si ses soins le lui conservaient, se tournerait peut-être un jour contre elle. Le docteur Sylvestre? Un grand cœur, une grande intelligence, une force. Mais atteint aux sources mêmes de l'être, il pouvait mourir dans ce midi où il allait chercher une prolongation d'existence. Que deviendrait Christine, une fois disparue la main qui la soutenait? Il songea à la solitude morale où ce deuil la rejetterait, et il eut l'effroi des dangers qui l'assailleraient alors. Où trouvera-t-elle la protection nécessaire si moi qui l'aime ne puis pardonner, et n'ai pas le courage de l'appeler auprès de moi pour la défendre? La pensée d'un pardon qui lui aurait tant coûté et dont il sentait que l'orgueil de Christine ne lui aurait su aucun gré, ramenait aussitôt son âpre et jalouse colère et chassait sa pitié. Ainsi, selon que la rancune ou l'amour parlaient le plus haut dans son cœur, il devenait pour elle impitoyable et dur, ou prêt à l'indulgence. Vaincu par la douceur d'aimer, il laissait ses sentiments profonds s'épandre dans le son caressant de sa voix, dans ses regards épris, dans les attentions dont il osait l'envelopper. D'autres fois, il apportait dans la maison de douleur un visage rigide, un front barré, des yeux mauvais, des paroles mordantes ou glaciales. Mais c'est à peine si la jeune femme remarquait ces changements d'attitude, à peine si, quand il était bon, un sourire affleurait à ses lèvres pâlies. Christine, si riche pourtant en douloureuses expériences, en moissonnait chaque jour de nouvelles. Elle apprit à connaître l'anxiété des longues veilles au chevet d'un lit de malade, à étudier, non plus en praticien, mais en mère qui a peur, l'effet des ordonnances, à noter heure par heure les fluctuations du mal sur un visage aimé, à attendre le cœur palpitant, le coup de sonnette du médecin, à sonder ses réponses équivoques, à déchiffrer ses regards d'une impénétrabilité voulue, à mendier un éclair de consolation ou d'espoir. Elle subit ses émotions dans toute leur intensité. Sans doute, elle était accoutumée aux malades. Elle n'aurait su dire combien de fois déjà le soir avait fermé des yeux qui s'étaient levés vers elle, morne ou hagard le matin. Elle avait pressé plus d'une main affligée, compati sincèrement à plus d'un deuil, déposé plus d'une gerbe blanche sur quelque enfantine couchette. Mais sa participation était restée tout extérieure. Maintenant, la réalité des drames, banaux à force d'être fréquents, auxquels assistent journellement les médecins, la poignait jusqu'au fond de sa chair. Pour la première fois, la maladie la visitait dans le cercle de ses affections. Assise à côté du lit où l'enfant gisait, tantôt inerte, tantôt délirant, Christine vit plus d'une fois, avec bonheur, l'aube blanchir au ras des fenêtres. Elle ne croyait pas que la nuit pût être si longue, ni que la pluie pût battre aux vitres avec tant de mélancolie, ni que le sommeil d'une maison et d'une rue pût être si oppressif alentour d'une veillée solitaire. Quand des souvenirs de son activité professionnelle la traversaient, elle se reprochait des négligences, des retards, des indifférences, une manière trop incisive de dire les choses, d'avoir eu des pitiés stériles, des phrases de condoléances trop faciles. Elle, pourtant si pitoyable et si bonne, aurait voulu qu'il fût en son pouvoir de revenir en arrière, pour être meilleure encore, pour accorder quelques instants de plus l'aumône de quelques paroles d'espoir. Quelquefois pendant ces nuits, il lui arrivait de penser à André. C'était sans colère ni rancune. Sa grande épreuve avait noyé toutes ses peines secondaires. Si quelque chose avait pu encore l'émouvoir, elle aurait presque souri de ses mépris. Que ne savait-il combien sa vie, en l'isolant, lui avait fait une âme à part. Pourtant, elle se disait que s'il fût venu à elle, malheureux, avec un passé de douleur et de honte, elle aurait mis toute sa joie à l'en consoler. Mais l'amour des hommes est différent de celui des femmes. Ce fut aussi à cette époque qu'elle passa par une crise étrange, dont l'impression fut infiniment lente à s'effacer en elle. Pendant quelques jours, elle vécut dans l'ombre de la mort. Cela commença par une mauvaise nuit où elle était seule à veiller. Le docteur était venu dans l'après-midi et Christine, prise de découragement, n'osa pas le déranger de nouveau. Le silence de la nuit, pâlement éclairé d'une faible lampe, les angles mystérieux de la chambre lui firent peur. La bonne, qu'elle voulut appeler, dormait dans le cabinet de toilette d'un lourd sommeil. En sorte que la jeune femme, après deux ou trois essais discrets, renonça à se servir d'elle. Le même découragement de tout à l'heure la paralysa. À quoi bon? Dans 5 minutes, si je le veux, cette pauvre fille, tout en larmes, s'empressera autour de moi. Le concierge ira chercher le docteur. On courra chez le pharmacien. On allumera des lampes, on fera du bruit. On s'agitera beaucoup et vainement, car si son heure est venue, il faut qu'elle sonne. S'il doit être sauvé, ma présence lui suffit. Et soudain, comme penchée sur l'enfant et lui prodiguait ses soins intelligents, elle vit la mort debout à côté d'elle. Non pas la mort qu'elle connaissait et que sa vie lui avait enseignée à ne pas craindre, la souriante libératrice qui apporte dans ses voiles fleuries le repos et la paix, l'oubli et le pardon, l'ineffable délivrance, celle qui est promise à tous et qu'on peut recevoir en ami. Ce qu'elle voyait, c'était le spectre de l'ancienne superstition, le hideux squelette aux orbites caves, au rictus blanc, enveloppé de son haillon pourri. Le lit prit tout à coup un air de catafalque. La veilleuse au plafond mit une lueur de cierge et le silence devint affreux, de cimetière. L'enfant, le visage creusé d'ombre, sembla mort et Christine écouta la voix du spectre. « Ce que tu fais est inutile. Il mourra tout entier, tout entier. » « Ce n'est pas vrai, râla Christine. » Il vivra, mon fils vivra. Elle tremblait toute, les bras appuyés sur le chevet du lit. La voix cruelle reprit. Non, rien ne reste, rien ne demeure. Cette petite créature aura passé sans laisser de traces, sauf dans le cœur de sa mère. Et quand ce cœur cessera de battre, ce sera comme si l'enfant n'était jamais né. Sorti du néant, il rentrera dans le néant. À quoi bon vos luttes, vos larmes, vos agonies, vos aspirations, vos travaux, vos sacrifices, vos vos sacrifices surtout. Tout s'effondrera dans le même abîme. » Éperdue, Christine se jeta sur la couche, pressant ses yeux brûlants contre les petites mains de fièvre. On aurait dû nous laisser la foi. Les mères avaient au moins la consolation d'un ciel où les attendent leurs petits anges. Dans le silence, elle entendait les coups durs de son cœur. La veilleuse projetait toujours la même clarté diffuse. Les rideaux aux fenêtres tombaient comme des murs d'ombre. Elle se décida à appeler Justine. Mais la présence de la jeune bonne au pied du lit n'éloigna point l'ennemi. Et son effroi se prolongea longtemps encore, dans le plein jour, tandis qu'elle agissait comme en un rêve, avec le reflet de cette hantise dans ses yeux. Chapitre 5. Un soir, quand André Sorin venait pour sa visite habituelle, la bonne l'accueillit d'un air joyeux, avec la nouvelle que la journée avait été beaucoup meilleure. Puis, en l'aidant à retirer son pardessus, la brave fille ajouta « Il faudrait bien songer à madame à présent, car c'est à peine si elle prend de temps en temps un œuf ou un bouillon que je lui apporte en courant. Et voilà bien des nuits qu'elle n'a pas eu un moment de sommeil. Je le lui ai dit bien souvent, mais elle ne m'écoute pas. Tandis que, si monsieur le docteur voulait lui parler... » Elle l'avait introduit dans le cabinet de travail qui précédait la chambre à coucher. Comme il se dirigeait vers la porte, elle ajouta en assourdissant sa voix, « L'enfant dormait tout à l'heure. Madame est auprès de lui. Elle attend monsieur le docteur. » La chambre était silencieuse. André jeta les yeux vers le lit, où le petit malade, allongé et rigide, semblait plongé dans une lourde torpeur. Christine, dans un fauteuil, les yeux fermés, une main posée sur les couvertures, comme pour affirmer sa vigilance, ne remuait pas davantage. Un instant, il la crut insensible. Il se courba sur elle, livide de peur. Un souffle léger soulevait sa poitrine. André se redressa, soulagé. Elle avait dû s'installer pour veiller et glisser à ce sommeil profond et paisible dont il n'eut garde de l'attirer. Il prit un siège et attendit. Et la pendule, arrêtée depuis le commencement de la maladie ne marquant plus l'heure, il ne sut jamais combien de temps il était resté là, à contempler Christine, à graver son image dans son cœur et dans ses yeux. Elle avait de petits pieds étroits qu'il brûlait de saisir et de baiser. Son peignoir de laine souple voilait la ligne de son corps très svelte, plongée dans une attitude d'abandon. La lumière atténuée de la lampe éclairait doucement son visage, amaigri et comme spiritualisé sous l'ombre blonde des cheveux. Malgré le stigmate des souffrances passées, creusée en bleuâtre meurtrissure autour des yeux, elle lui parut infiniment jolie, très jeune, très pure et adorable. À la voir ainsi, songea-t-il, qui croirait? Il n'acheva pas de formuler sa pensée qui l'aurait obligé à refaire le calcul du passé. Frappé, peut-être, par la sensation de ce regard mauvais qui l'enveloppait, Christine s'éveilla tout à coup. Elle jeta dans la pièce un regard reprise par la réalité que ce sommeil réparateur avait un instant éloigné, et se dressa, confuse, rougissante. « Comment, docteur, vous étiez là? Depuis quand ?» André répondit, « J'arrive. » Elle reprit, « Je vous attendais. Et je ne sais comment, j'étais si lasse, je me suis endormie. Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillée ?» Elle restait debout devant lui, appuyée au chevet du lit, et à peine moins blanche que sa robe, souriait, à moitié étourdi. Après tant de fatigues cruelles, ses nerfs semblaient détendus et n'avoir plus la force de se raidir. Son regard escomptait la bonté d'André. Il dit avec douceur « J'étais trop heureux de vous voir prendre un peu de repos. » De nouveau, elle sourit à la bienveillance de ses paroles. « D'ailleurs, ajouta-t-il en lui montrant le lit, vous n'étiez pas seul à dormir. François vous tenait compagnie. Et de bon cœur, je vous réponds. Il est sauvé, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Je l'espère. » Pour la première fois, elle songea à remercier. « Comme vous avez été patient et bon, c'est à vous qu'il devra la vie. »« Bah, fit-il, n'exagérez pas. Le cas n'avait rien d'anormal. Vous l'auriez aussi bien soigné que moi. » « Oh non !» s'écria-t-elle avec élan. « Moi, je ne voyais rien, je ne pouvais rien. » Il prit un ton d'amicale gronderie. « En tout cas, vous avez pu vous surmener abominablement. Vous avez négligé les précautions les plus élémentaires. Vous avez été aussi imprudente pour vous-même que la plus ignorante des mères. » « Mais je suis mère ici, je ne suis que mère. C'est vous qui êtes le médecin. » « Eh bien, écoutez-le aussi pour vous. » Docile, elle se laissa sermonner, et il partit en emportant la promesse qu'elle accepterait l'assistance d'une religieuse qu'il allait aussitôt lui envoyer. Quand il revint le lendemain, Christine l'accueillit dans son cabinet. Une joie charmante illuminait jusqu'au fond de ses claires prunelles. « Le mieux se maintient, dit-elle, en prévenant toute question. En ce moment, il dort. La sœur est auprès de lui. J'ai si peur de l'éveiller que je n'ose pas même entrer dans sa chambre. Pourtant, je voudrais que vous le visiez. » « J'attendrai volontiers, dit André. » Il la regardait, frappé de sa nouvelle métamorphose, cherchant en vain dans cette souriante jeune femme, coiffée, habillée avec soin, la créature vieillie et affaissée des jours précédents. Et secrètement, il admirait ce prodigieux ressort qui, au sortir même de l'angoisse, lui rendait en un instant tout son charme antérieur, toute sa beauté, la sérénité fière de son attitude, adoucie maintenant pour lui d'une nuance amicale d'abandon. « J'attendrai, répéta-t-il, aussi longtemps que vous le souhaiterez. » Et il ajouta, « Par hasard, ce soir, je suis tout à fait libre. » Oubliant combien souvent il avait prononcé cette phrase. En somme, chaque fois que Christine réclamait sa présence. La jeune femme, en revanche, le remarqua pour la première fois. Elle reprit, un peu étonnée, « Pour vous distraire, « je puis vous donner des nouvelles des Sylvestres. Je viens de recevoir du docteur une très longue lettre. Justement, il y a là quelque chose qui vous intéresse tout spécialement. » Elle allait en commencer la lecture, les feuilles minces couvertes d'une écriture menue éparpillées sur ses genoux, quand la bonne entra, portant un plateau à thé. Christine vit qu'il était préparé pour deux. Elle parut hésiter une seconde. « Je bois beaucoup de thé depuis que je suis garde-malade, » expliqua-t-elle. « En prendrez-vous une tasse avec moi ?» Sorin accepta. Comme il recevait debout la tasse de ses mains, leurs yeux se rencontrèrent et ils eurent tous deux l'impression que ce simulacre de repas pris en commun les rapprochait davantage. Mais après quelques paroles échangées, une nouvelle gêne s'insinua dans leurs propos. Peut-être sentaient-ils qu'ils auraient eu d'autres choses à se dire et que l'heure étant rare et charmante, ils avaient tort de ne pas en profiter. Bientôt, ils glissèrent même à un silence complet. Assise sur une banquette aux bras bizarrement contournés, Christine inclinait vers la flamme du foyer son joli visage pensif, éclairé d'un reflet rouge, tandis que Sora, adossé à la cheminée, sentait germer en lui, comme une herbe mauvaise, l'irrésistible envie d'apprendre d'elle-même quelque chose du passé, quelque chose de plus que ce qu'il savait déjà. Un moment, il lutta contre ce sourd instinct dont les suggestions le faisaient presque rougir de honte. Mais sa jalousie exaspérée éveillait en lui le bourreau douloureux qui torture en saignant pour arracher un secret dont il souffrira davantage. Son désir l'emporta. Comme il ne pouvait arriver à ses fins par la simple et droite confiance que la reconnaissance de Christine avait ramenée dans leurs entretiens, il y marcha par une voie cauteleuse et rusée. Il fit l'éloge de François, de son courage à supporter le mal, de sa patience à prendre les remèdes. Il dit « Cet enfant est vraiment au-dessus de son âge, par la raison comme par la taille. » « Je crois, en effet, répondit Christine, qu'il deviendra très grand. » Elle s'arrêta. André lut dans ses yeux qu'il venait d'évoquer un souvenir. Et cette présence soudaine, entre eux, de l'homme auquel il ne pensait jamais sans une explosion de haine, l'affolait. Il ne calcula plus ses paroles. Frappant, comme en une minute de démence, il reprit, avec un regard mauvais, en réprimant à peine le tremblement irrité de sa voix. « Vous avez dû vous marier très jeune pour avoir un enfant de cet âge. » Christine eut un haut-le-corps de surprise. Elle le regarda bien en face, puis détourna tristement les yeux, et après un instant d'un lourd silence, « J'avais 19 ans quand mon fils est venu au monde, mais son père et moi n'étions pas mariés. » Elle dit cela d'un accent très calme, le visage incliné vers le feu, les yeux fixés sur la flamme amincie qui se tordait dans l'écroulement des braises. Sa voix avait à peine frémi, mais ses doigts s'entrelaçaient nerveusement sur son genou et ses traits se contractaient. André ne sentait plus que la honte de sa lâcheté. Il balbutia. « Pardonnez-moi, je... » Il n'osa pas dire « je ne le savais pas », car le triste regard que la jeune femme releva sur lui ne lui eut pas permis d'achever son mensonge. « Vous le saviez, dit-elle. « Mais vous avez voulu que je vous le dise. Êtes-vous satisfait maintenant ?» Il répéta. « Pardonnez-moi, si vous pouviez vous douter à quel point l'idée que vous avez aimée... » Elle l'interrompit d'un geste lent. « Ne me dites rien, je vous en prie. Tout ce que vous me diriez me ferait de la peine. » Comme il se sentait confus devant elle, la sœur apparut sur le seuil et dit de sa voix neutre « L'enfant s'est réveillé, madame, et veut vous voir. » Christine se leva pour la suivre. « Pardonnez-moi, » répéta encore André en marchant derrière elle. Les yeux pleins de larmes, elle lui répondit à voix basse « Je pense à ce que vous avez fait pour mon fils. J'oublie le reste. » Remué jusqu'au fond du cœur par la mansuétude de cette réponse, où il craignait de sentir une nuance de mépris, il se demandait si sa cruelle lâcheté n'appelait pas autant d'indulgence qu'une faute d'ignorance et d'amour. Chapitre 6. L'indulgence coûte moins aux femmes. André et Christine continuèrent à se rencontrer au chevet de l'enfant convalescent. Délivrée de soucis, la jeune femme rétablissait l'équilibre de son existence, reprenait ses occupations et recevait, surprise et attendrie, les marques de la sympathie que son épreuve avait fait naître. C'était maintenant le sourire aux lèvres qu'elle accueillait toujours son amie. On eût dit qu'il s'efforçait d'oublier dans le silence la scène douloureuse qui, cependant, leur laissait un si cuisant souvenir. Mais, tandis que l'impression s'en effaçait dans l'âme de Christine, plus ouverte à la reconnaissance qu'à la rancune, Saurin en gardait le remords. C'est qu'il n'était plus innocent envers elle et qu'il pouvait, qu'il devait, se poser cette question anxieuse. Qu'est-ce donc qu'elle pense de moi ? Tantôt inquiet, il frémissait de s'être irréparablement éloigné d'elle. Ou, rassuré, il admirait son oubli généreux. Mais jamais il ne surprit, dans le clair cristal de ses yeux ou de sa voix, l'ombre d'un reproche. À son entrée, elle lui tendait la main avec une tranquille confiance. François, pelotonné dans un fauteuil à côté d'elle, se levait d'un mouvement languissant pour offrir un baiser. Son maigre petit visage s'illuminait aussi d'un rayon joyeux. Alors, André, l'attirant sur ses genoux, s'amusait à le faire jaser. Et toujours l'enfant parlait de sa mère, qu'il aimait d'une affection passionnée et jalouse. « Maman a dit, maman a fait, maman m'a promis. » Parfois, quelques jolies indiscrétions perçaient dans ses propos. Et Saurin se réjouissait alors d'entrer plus avant dans l'intimité de Christine, qui échangeait avec lui, par-dessus la blonde tête rasée, un regard souriant, un peu confus. Elle-même, d'ailleurs, devenait plus expansive. Volontiers, par exemple, elle racontait ses expériences d'étudiante, dont elle rappelait surtout le côté pittoresque, anecdotique ou touchant, avec un parti pris courageux de glisser sur les souvenirs pénibles. Auprès d'elle, les heures s'écoulaient légères, comme délivrées de tout ce qui peut les attrister. Mais à peine André l'avait-il quitté, qu'il était repris par le doute et la lutte. Jusqu'alors, il aimait à répéter une phrase qui livrait d'emblée, croyait-il, la clé de son caractère. Il disait « La vie est simple » et on réduisait les exigences à cette seule formule. Faire son devoir, ne jamais transiger avec sa conscience. Et voici que depuis peu, la vie lui apparaissait compliquée, le devoir ondoyant, sa conscience meublée d'idées qui lui semblaient discutables ou moins sûres. Des doutes ébranlaient ses anciennes certitudes. Il ne savait plus où il était, ni surtout ce qu'il voulait faire. Aucun engagement ne le liait encore à Christine. Pourtant, il lui appartenait tout entier. L'idée de la perdre révoltait tout son être. Sa raison lui disait que, François rétabli, ses visites devaient cesser ou prendre un autre caractère. Et au moment même où il reconnaissait la nécessité d'un pas décisif, il percevait avec effroi les obstacles qui lui restaient à vaincre. Le plus redoutable, le seul redoutable même, car son propre cœur avait triomphé, c'était sa sœur Agnès, parce qu'il l'aimait. Elle était son aînée de plusieurs années. Elle lui avait servi de mère. Or, il connaissait trop bien Agnès, la rigidité de ses principes, l'empire que l'idée du devoir exerçait sur son esprit pieux, pour espérer beaucoup qu'elle comprît jamais Christine. Malgré sa tendresse pour son frère, elle préférerait le perdre plutôt que de fléchir. Il pouvait mesurer d'avance la complète inutilité des propos qu'il lui tiendrait en vain. D'avance aussi, il l'entendait répondre « Ce n'est plus toi qui parles, et tu parles ainsi parce que tu l'aimes. C'est ta passion qui fait ton indulgence comme elle fait sa vertu, peut-être sa beauté. Une honnête femme ne pêche jamais. Un honnête homme ne pardonne pas. » Toutes ces réponses se briseraient contre ce mur solide à braver tous les assauts. L'heure approchait pourtant où il faudrait en tenter l'attaque ou renoncer aux chères espérances. Car à mesure qu'il pensait davantage à Agnès, Saurin se convainquait lui-même en la réfutant, et la rigidité présumée de sa sœur contribua peut-être à réduire sa propre sévérité. Cependant, les prétextes devaient bientôt manquer à ses visites. L'enfant complètement guéri commençait à sortir. Un jour, Christine annonça à Saurin que les Sylvestres invitant François à venir achever sa convalescence dans le Midi, elle allait le conduire à Saint-Raphaël. Cette nouvelle le frappa comme un coup en plein cœur. Comment supporterait-il le vide ainsi creusé tout à coup dans son existence? Une fois rompue la douce habitude de la voir tous les jours, comment la renouerait-il? Quel avis son vieil ami donnerait-il à Christine? Quels conseils prendrait-elle de ses propres réflexions pendant les loisirs du voyage? Autant de problèmes qui le tourmentaient, qui lui semblaient très obscurs, que son cœur et sa pensée tournèrent et retournèrent sans leur trouver aucune solution jusqu'à la dernière soirée. François empilait dans une boîte ses jouets favoris. André et Christine se taisaient ensemble, chacun poursuivant sa secrète méditation. François demanda « Maman, où faut-il mettre mon polichinelle pour qu'il ne se casse pas ?» Christine arrangea délicatement le jouet grotesque. En se retournant, elle remarqua le regard d'André posé sur elle. Il voulait parler. Il hésitait. Enfin, il dit avec lenteur, d'un ton dont la gravité contrastait avec l'insignifiance des paroles, « Il est possible que je m'absente quelques jours, moi aussi, pendant que vous serez là-bas. » Cette annonce causa quelques surprises à Christine, car il ne lui avait jamais parlé d'aucun projet de voyage. « Ah » fit-elle. Son regard semblait l'interroger. Il poursuivit. « Oui, je crois vraiment que je vais voyager aussi. Il y a longtemps que je n'ai vu ma sœur. J'aurai grand besoin de causer avec elle. » Il disait cela avec une émotion si évidente que la jeune femme ne put s'empêcher de deviner ou de supposer qu'elle n'était point étrangère à ce projet. Elle détourna les yeux, s'aperçut à propos que François ne parvenait pas à fermer son arche de Noé et se mit à l'aider sans rien dire. Puis, songeant peut-être que son apparente distraction froisserait André et trahissant en même temps le souci qui s'esquissait dans sa pensée, elle dit en revenant à lui « Elle doit être très bonne, votre sœur, n'est-ce pas ?» Cette simple question le troubla profondément, car depuis qu'il redoutait Agnès, il ne la jugeait plus comme autrefois. « Elle a toujours été très bonne pour moi, » répondit-il. Il voulut s'expliquer mieux et ajouta « Et puis, elle est très pieuse, très charitable. Elle fait partie de je ne sais combien de comités. Elle n'est pas riche et se prive du nécessaire pour venir aux plus pauvres qu'elle. Pourtant, ce « pourtant » lui avait échappé. Les yeux étonnés de Christine semblaient lui en demander la raison. Il reprit. « Je suis toujours étonnée de voir combien il y a de façons d'être bon. Celle d'Agnès, par exemple, est bien différente de la vôtre. Elle-même est si différente de vous. Elle est plus grave, plus réservée. » Il s'interrompit de nouveau pour reprendre encore. « Savez-vous comment vous a appelé un jour à la clinique un bonhomme légèrement frotté de littérature ?» Il vous a appelé la charité qui sourit. Cela m'a paru bien trouvé. Agnès, elle, fait le bien sans sourire. François, qui écoutait à moitié, lança, en tirant sur le dernier nœud de la ficelle qui entourait sa boîte. « Maman ne gronde jamais personne. » Cette boutade les fit rire un instant. Puis André revint bientôt à sa préoccupation dominante. « Combien de temps durera votre absence » demanda-t-il. C'était au moins la 10e fois qu'il posait cette question. « Quelques jours, une semaine ou plus. » « Vous me permettrez de venir à votre retour et chercher de vos nouvelles ?»« Sans doute. Mais si vous êtes vous-même absent ?»« Oh, je serai rentré avant vous. » Sur ce mot, qui accentuait un peu trop la coïncidence de leur double voyage, il se leva et lui dit adieu. Et dès qu'il fut dans la rue, désolé d'avoir abrégé leur dernière entrevue, il lui sembla, à son tour, qu'il entrait dans une phase de solitude et de douleur.